êtes Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma. Alors parfois, on a trop de films dont on veut vous parler et on ne peut pas caser de blind test. Eh bien, aujourd'hui, nous le pouvons. Et nous jouerons un blind test spécial filmographie de Denis Podalydès. Nous ne l'avons jamais fait, c'est une première, parce que je vous parlerai du film Le Répondeur de Fabienne Godet. Et aujourd'hui, nous avons alors non pas chacun un film, mais chacun un réalisateur, parce que toi, tu as deux films pour un réalisateur, Guillaume.
Oui, moi, je vais vous parler du retour assez impressionnant en France là, de Kiyoshi Kurosawa, plus précisément, parce qu'il a quand même trois films qui vont sortir en l'espace de 3 mois, dont 2 là maintenant.
Et c'est mieux que Soderbergh, donc. À toi et toi, Manu, un film.
J'ai un film, un premier long métrage, Health, de Thibaut Aymin.
Eh bien, si nous commencions par cela, une maladie frappe les êtres humains, ils fusionnent avec tout ce qu'ils touchent. C'est donc Else.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Par le beau temps qui arrive un peu partout, hein, est-ce bien raisonnable de se réfugier dans les salles obscures pour subir un film de confinement? Alors, sous genre anxiogène, non pas tant pour ce qui est montré à l'écran, mais bien par rapport au contexte historique et puis les souvenirs désagréables qui en découlent. Bon, en fait, pas vraiment. Je dirais même que l'on a frôlé peut-être l'indigestion ces dernières années entre, je sais pas, Songbird, Coma, Hors Saison, Venez Voir, pour ne citer que quelques exemples récents. Alors, faut-il pour autant éviter Else? Alors non, surtout qu'il s'agit d'un premier film particulièrement ambitieux, en dépit de son dispositif encapsulé dans un lieu clos, ce qui est pratique quand on a peu d'argent et plein d'idées. Alors, ça commence pourtant plutôt mal. Les premières images agressent la rétine par cette esthétique bricolée et colorée. Un mixte indigeste de Caro Jeunet et de Michel Gondry. Un homme et une femme font l'amour maladroitement dans une chambre chargée de bibelots, de jouets, avec des murs aux couleurs flashy. La forme rebute avec ses plans filmés à l'épaule, son montage saccadé et l'abus de grand angle. Alors pour en rajouter une couche, on pense aussi à un Terry Gilliam sous acide et en roue libre. Et pourtant, cette esthétique nauséeuse n'est qu'un leurre, une manière de tromper un spectateur invité à assister à une fantaisie qui n'aura pas lieu, ou du moins ne sera que de courte durée. Alors ce qui rassure néanmoins, c'est la fraîcheur des rapports du couple naissant. Hanks vient de rencontrer Cass, la rom-com en devenir est tout de suite brisée par le cœur du sujet, une épidémie éclate brutalement, les êtres fusionnent avec les choses au sens physique, que ce soit des pierres, des draps, des objets. Cloîtrés dans l'appartement, Hanks et Cass tentent de se battre contre cette menace d'un autre genre, éloigné du body horror traditionnel. Ici, il s'agit d'un film de texture, de matière physique, qui s'empare de l'individu. C'est presque du jamais vu dans le genre.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Le métamorphisme est un phénomène bien connu chez les minéraux. Ce qu'on ignore encore, c'est pourquoi il s'étend aujourd'hui au monde animal. Soyez vigilants. Les premiers symptômes sont toujours identiques.
Si les gens fiers commencent à fusionner, elle a de plus en plus de mal à ouvrir les portes.
Thibaut Aymin s'emploie à donner une tessiture visuelle à chaque changement de ton. La couleur au début laisse place à un noir et blanc anxiogène, mais très beau, avant de virer lors de la partie la plus expérimentale vers des teintes monochromes, de l'orange au bleu. Alors le cinéaste tente beaucoup de choses, en rate certaines et en réussit d'autres, mais livre au final un objet bizarre, un brin prétentieux, mais dont l'intérêt est constant. La grande qualité d'Else tient à l'écriture, à la simplicité d'un scénario linéaire qui accepte l'affiliation avec le film d'horreur le plus élémentaire. Alors cette évidence permet de ne pas perdre le spectateur, afin de laisser libre cours à son imaginaire, débordant jusqu'aux 10 dernières minutes qui s'échappent en revanche du récit pour développer, on va dire, une vision du monde métaphysique à la manière de Kubrick. La référence est écrasante, mais ce n'est pas la seule, hein, entre Eraserhead, les premiers films de Cronenberg, et plus surprenant, hein, selon l'aveu d'ailleurs du réalisateur, La Femme des Sables d'Hiroshi Teshigahara.
Putain, tout est en train de fusionner. On est en train de s'emmurer vivant.
«
Aussi imparfait soit-il, Hell's Intrigue étonne, charme, agace, ne ressemblant à rien d'autre dans le paysage français, en dépit de ses influences très marquées mais bien digérées. Thibaut Hémin échappe de justesse au pensum philosophico-fantastique grâce à sa foi sincère en un cinéma visuel et sensitif, en sa capacité de nous intéresser à l'existence de ces personnages qui ne sont pas des enveloppes vides. Alors leur sort nous importe, on vit et on souffre avec eux, ce n'est pas la moindre des qualités de ce beau film, jamais là où on l'attend. Alors, tourné avec un budget quand même dérisoire, le film regorge d'inventivité, de ses effets spéciaux bricolés à son régime d'images hétéroclite et fascinant. Il trouve surtout un équilibre miraculeux alors, entre son histoire d'infectés plus touchante qu'effrayante et sa mise en scène foisonnante et expressive. La mutation des personnages, et surtout celle de Cass, où sa chair fusionne avec des draps, ne laisse pas à distance le spectateur. Plus qu'un exercice de style brillant, Hell's finit par émouvoir ce qui n'était pas gagné au départ.
Alors Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, en fait, alors j'ai pas encore eu la chance de voir le film, qui a l'air très très intriguant, et tu donnes encore plus envie, mais ça me fait penser à l'excellent film Tokyo, au segment de Michel Gondry, où on avait un personnage qui se fusionnait, transformé en chaise, en mobilier, il y avait toute une parabole sur l'enfermement, mode de vie en partie tokyoïte aussi, donc ça m'a l'air vraiment intéressant de le voir abordé de la manière la plus pure fantastique qui soit dans Hell's. Ouais.
Il y a aussi là une influence en fait aussi des films de Tsukamoto et notamment du plus connu Tetsuo qui est très visible dans le film dans toute la partie en noir et blanc.
On se donne encore plus envie.
Voilà.
Et sinon le son, comment ça se passe? Parce que dans les bandes annonces on a du mal à comprendre les dialogues. C'est non, un son à la française pur et dur ou
pas de problème par rapport à ça.
Okay, voilà,
pas de problème.
Bon, c'est juste mixage de la bande annonce.
Okay. Oui, je pense.
Okay. Alors on va écouter un extrait de la bande originale, car ce film semble un peu dans la marge, mais Nana Mouskouri à l'honneur avec Chuck Mangione pour un morceau qui s'appelle Land of Make-Believe. Nous écoutions donc Nana Mouskouri, qui est dans la bande originale du film Hell's. Un écrivain embauche un imitateur pour répondre à sa place aux appels téléphoniques. Nous parlons maintenant du répondeur de Fabienne Godet.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Pierre Chauzen, je suis...
Je sais qui vous êtes.
J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur.
Fabienne Godet a marqué les esprits, en tout cas avait marqué le mien, avec un premier film, sauf le respect que je vous dois, avec un Olivier Gourmet qui piquait bien sûr une colère. Un film engagé dans une veine dramatique, rien à voir avec Le Répondeur. Quelques films plus loin qui s'infiltrent dans la comédie, mais pas la comédie grasse, non, la douce, qui a valu au film le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez. Le pitch est intrigant, Pierre Chauzen, on l'a entendu là, incarné par Denis Podalydès, romancier célèbre, qui a empoché le prix Goncourt, n'en peut plus d'être constamment obsédé par son téléphone et dérangé à tout va. Et donc il a une idée, demander à un imitateur de prendre sa place, comme ça, eh bien, il aura tout le temps d'écrire son prochain livre, et bien plus encore. Alors pas de téléphone, pas de questions, bon débarras. Il demande donc à un imitateur qui a du talent, mais pas encore de public, incarné par Salif Cissé, d'accepter cette tâche qui est bien sûr chichement rémunérée.
Il est dingue quand même ce mec, non?
Ce que vous proposez est complètement pervers.
Tu te vois, toi, faire un truc pareil?
Votre réputation.
Ma réputation.
Personne peut tromper ses proches.
Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question.
Ouais, papa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais.
C'est pas grave.
Alors, il faut bien admettre que la manière dont elle imitateur pour prendre possession de la voix et du bon ton de Donny Podhalides est remarquable. C'est évidemment bluffant, si bien que tous ceux qui appellent l'écrivain eh bien, sont bluffés, hein, et en premier lieu sa fille. Mais il y a aussi son ex-femme, et puis son dernier amour qu'il a laissé filer, et puis son père toxique. Alors on le sent, ça fait quand même sacrément beaucoup de dossiers pour Baptiste, qui doit donc, comme il le dit, improviser. Ce qui est très intéressant, c'est que plutôt que de nourrir la comédie par des gags et des quiproquos, cette improvisation augmente la vie de l'écrivain. Son entourage se bloque ou se débloque selon les personnages, si bien que sa vie change, il n'en demandait pas tant.
Bonsoir Nathalie.
Ça me fait drôle de t'entendre prononcer mon prénom.
Méfiez-vous d'elle, c'est un crotale.
Allô ?
Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible.
Comment ça, ça va plus être possible ?
Alors, il est très étonnant de ranger ce film même dans la comédie, car à mesure que le récit avance, on s'enfonce dans une sorte de sourde mélancolie. Alors, c'est un peu à l'image du spectacle de Baptiste que l'on voit sur un mode stand-up au début du film et qui va, vers la fin, faire la part belle à de grandes interprétations musicales. Il suffirait de fermer les yeux pour ne plus dissocier le personnage incarné par Donny Podhalides et la voix de ce dernier qui s'incarne dans l'imitateur. C'est l'un des moteurs du film, évidemment, qui n'évite pas tout de même le quiproquo en forme de nœud inextricable. Car Baptiste en pince pour la jeune fille de l'écrivain. Il la pousse sous la voix de son père à peindre et en plus à être son modèle, sa source d'inspiration, jusqu'à ce que, mais on s'en doute bien, hein, elle s'aperçoive qu'on ne lui a pas tout dit.
À quoi vous jouez, Baptiste ?
On m'avait demandé d'improviser. J'ai improvisé.
Tout va bien ?
Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi.
On continue.
Je vais te pourrir la vie, Pierre.
On continue.
Mon livre n'est pas encore commencé.
Et vous faites quoi de vos journées?
Je vis.
J'ai juste une question. Si je veux joindre Pierre, j'appelle Baptiste.
Et là, nous entendions la voix de Laura Tica. Par sa manière de ne pas tout sacrifier à la comédie, de bien observer ses personnages, l'écrivain qui recherche la discrétion et l'imitateur en quête de lumière, Fabienne Godet construit un récit doux, léger, jamais racoleur, jamais dans l'excès. Alors ça tient évidemment au casting, trouvant son équilibre. Donny Podhalides est impeccable en écrivain méprisé par son père, qui a pourtant donné le goût de la littérature. Et de par sa carrure, Salif Cissé s'éloigne du chétif Podhalides, laissant à la voix, à la sensibilité et l'intelligence la possibilité d'accomplir un nouveau destin. Et donc ce répondeur est une très très bonne surprise et il est en salle depuis le 4 juin et ce film eh bien, nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Donny Podhalides, une filmographie absolument conséquente, une filmographie qu'on peut qualifier de plutôt orientée vers la comédie avec quelques films aussi dramatiques, une fidélité à son frère hein, Bruno Podhalides puisqu'il joue dans tous les films de son frère et il y aura évidemment un film de ce dernier. Allez, 5 extraits. Nous écoutons le premier extrait de ce blind test.
Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, juste avant que j'y aille hein, les derniers mots que tu as dit.
Je parlais des Américains.
Ah non, tu m'as demandé si j'étais jaloux. Ah, c'est ça. Voilà. C'est le mot qui a fait levier. J'étais trop sensible.
Ah bon
Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Hein. Mais tu supposais que je puisse l'être. Donc, qu'il y ait quelque chose entre nous. En fait, je résiste depuis que tu as commencé à parler ouvertement de ce dîner.
Parce que dès que tu te sens dans une situation affective trop riche, ça enclenche le processus.
C'est ça, voilà. Exactement. Dès que s'ouvre l'embryon de la possibilité qu'il se passe quelque chose
De grave sentimentalement.
C'est ça, de grave sentimentalement, eh ben je cours vomir. Alors, d'habitude, j'y vais du premier coup, hop, première nausée, et ensuite je suis débarrassé. Et puis après, je me contrôle, je ravale, et enfin je remonte à la surface.
À la vie civile.
À la politesse, la conversation courante, sans enjeu, sans drame.
Sans engagement.
Alors, la séquence est bien plus longue, mais je l'ai quand même laissé là aussi durer. C'est
Dieu seul me voit, et il me semble que cette séquence est un hommage à Hergé, et notamment au Tintin. Et oui.
Ah bon ?
C'est bien celle qui se situe dans un restaurant.
Oui,
en
oui,
fait.
Oui. Parce oui. que Tintin vomit, quel est le.
Non, il y a des références autour, au niveau des décors, à un album précis de Tintin.
Ah ben ça m'a complètement échappé. C'est le premier long métrage de Bruno Podalydès, donc effectivement il est question de son frère, le réalisateur. Film de 98, sous-titré Versailles Chantier. À noter qu'il y a deux versions de ce film. Il y a eu la version long métrage qui doit durer 1h40 et puis il y a eu la version interminable en 6 épisodes diffusée sur une chaîne jadis du câble qui n'existe plus et puis aussi fournie en DVD. Albert doute de son pouvoir de séduction. Il doute aussi de ses propres sentiments comme de la direction à prendre, de l'attitude à adopter, du discours à tenir. Enfin voilà, il doute. Et il rencontre Jeanne Balibar, ce qui ne va rien arranger. À noter que même sa voix sert dans certains jingles de Cinérama. On en écoutera un à la fin de ce blind test. En salle, il y avait quand même 393 000 entrées pour un premier film. C'était quand même assez remarquable. Deuxième extrait de ce blind test autour de la filmographie de Denis Podalydès. Et là, il y a eu beaucoup moins d'entrées.
Pourquoi je suis ici ?
Parce que j'ai suivi la tentation là où elle m'a entraîné. Ça m'arrive maintenant que je suis plus vieux.
Pourquoi tiens-tu tellement à ne pas la blesser ?
Mais pourquoi devrais-je souhaiter la blesser ?
On dirait que t'es pas libre de faire ce que tu veux.
C'est quoi être libre ? Tu es libre, toi ?
Plus ou moins libre. Plus libre que toi.
Mais foutaise ! On devrait mettre un terme à cette conversation.
Pourquoi ?
Peut-être que ça marche mieux dans l'adultère si un seul des acteurs formule des griefs conjugaux.
Ce qui fait que tes griefs sont interdits. Hormis tes griefs concernant l'Angleterre et tout ce qui est anglais.
Alors, c'est trouvé.
C'est tromperie.
Et oui.
D'après le roman de Philippe Ross. Et c'est pour ça que j'ai reconnu, en fait. Parce que j'ai lu le roman il n'y a pas si longtemps.
C'est pas de se dire, il y a Denis Podalydès et Léa Seydoux qui n'ont pas dû tourner énormément ensemble.
J'ai pas vu le film.
Et moi non plus. Philippe est un écrivain américain célèbre, exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l'amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant. C'est un film extrêmement bavard. Effectivement, j'aurais pu prendre plein de dialogues. 85 000 entrées en France seulement pour ce film, qui est sorti dans un contexte de pandémie. Allez, il n'a pas fait beaucoup plus d'entrées ce film-là. Nous écoutons le troisième extrait de ce blind test.
Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire une chose. Je me passe de votre permission. Enfin, pourquoi n'appliquez-vous cette règle du non-cumul qu'à moi seul ? Si Alain Juppé n'avait pas été condamné, il serait revenu au gouvernement et l'aurait cumulé avec votre bénédiction. Alors pourquoi moi, je n'aurais pas droit ?
Parce que toi, tu es différent. Si tu cumules le parti et le gouvernement, ça posera un problème d'équilibre du pouvoir. Raffarin, tu en feras une bouchée en 3 mois.
Pourquoi en 3 mois ?
C'est à toi de choisir. Si tu veux rester à Bercy, tu restes à Bercy. Si tu choisis l'UMP, c'est OK pour l'UMP. Je ne m'oppose pas à ce que tu y ailles.
Vous avez l'extrême amabilité de me donner une autorisation que je ne vous ai pas demandée. Mais vous-même, dans le passé, quand vous vouliez vous emparer de ceci ou de cela, vous demandiez d'autorisation à personne, que je sache.
Et c'est trouvé.
Et c'était La Conquête de Xavier Duringer.
Et dans une imitation donc de Nicolas Sarkozy, puisque La Conquête parle de l'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme. 716 000 entrées en France pour ce film de Xavier Duringer de 2011. Nouvel extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Denis Podalydès.
Vous pourriez m'offrir l'inscription au Club des Amis de Barbie à la place.
Au Club des Amis de Barbie ?
C'est un club qui fait gagner de très luxueux cadeaux. Et si tu fais partie du club, Barbie, elle t'écrit des lettres régulièrement et ça devient ton ami personnel.
C'est quand même étonnant, ma chérie, que tu sois prête à payer pour rentrer au club des amis d'une fille en plastique avec des cheveux en nylon filasse.
Mais c'est vous qui me laissez pas jouer avec de vraies petites filles gratuitement.
Arrête de faire ton enfant gâté. Moi, à ton âge, je me réjouissais d'une orange à Noël.
Alors c'est...
Je l'ai vu mais je ne me rappelle pas.
Alors le personnage important c'est effectivement la petite fille, mais Denis Podalydès joue un père. Film de 2012 de Karine Tardieu, prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes. Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté jusqu'au jour où son chemin croise celui de l'intrépide Valérie. C'est du vent dans les mollets. Un film qui a réuni 614 000 spectateurs en France. Dernier extrait de ce blind test.
Qu'est-ce que t'as dit à Julie exactement au sujet de ses répliques ?
C'est normal que Julie retouche un peu son texte, hein ? Personne n'est psychorigide chez moi.
T'en retouches un peu ? Attends, je te lis la scène de rupture, hein ? Mon texte. Non, non, mais attends. Hein ? Isa, qui parle. Alex, j'ai l'impression étrange d'avoir fait fausse route. Je ne te reproche rien. Peut-être ça, justement. De n'avoir rien à te reprocher.
C'est bon, ça.
Mais alors, je te lis la nouvelle version de Julie. Isa qui dit : Alex, je me casse.
C'est bon, ça.
Bon, alors moi, je me casse le cul à faire d'Isa une femme réelle, avec ses problèmes, ses joies, ses souffrances. Loin des stéréotypes, et toi, tu m'en fais une petite minette limite pouf.
Isa, elle parle pas comme ça, elle parle plus comme ça en tout cas, hein. C'est fini tout ça.
Pauvre petite conne. Bon, ouais, on se calme, Jacques, hein. Ça va, non? Les canoteurs de plateau sont tout assez remplaçables. C'est Julie, là, hein. C'est elle que les gens aiment regarder tous les jours. Toi, on s'en fout. Des petits mecs comme toi, il y en a des centaines.
Et on prend ma place, je me barre, j'apprends plus une réplique de Stockard.
Alors, c'est un film qui a réuni 4163 spectateurs en France en 99. Et pour tout dire, alors c'était parmi les premiers films de Denis Podalydès, mais il y avait quand même dans le casting José Garcia et Jackie Boirgoyer qui, à cette époque-là, étaient à la télévision. Et c'est pas pour autant que ça a fait grossir les entrées. Les frères sœurs tentent de réussir dans le cinéma, mais ne font rien comme il faut. Et ça s'appelle Les frères sœurs, film de Frédéric Jardin. Voilà, bon, je l'ai mis parce que ça a un rapport avec le cinéma. Voilà. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la filmographie de Denis Podalydès, puisque nous parlions du film Le Répondeur. Coup double pour Kiyoshi Kurosawa qui sort deux films en 15 jours. Guillaume nous parle de Shime et Cloud.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Ce qui semblait être un jour d'enseignement normal et culinaire pour Matsuoka, vire au cauchemar en cuisine lorsque l'un de ses étudiants poignarde aussi subitement que violemment une de ses consoeurs sous ses yeux avant de se donner la mort. Alors auparavant, le futur assassin avait eu le temps de demander à son professeur s'il entendait un carillon, source d'un bruit obsédant qui va l'amener jusqu'à la folie et l'irréparable. D'abord choqué, Matsuoka va découvrir que cet acte ne sera définitivement pas sans conséquence sur lui, car de manière directe ou indirecte, il va être lui aussi victime et acteur de ce son infernal qui s'est propagé jusqu'au plus profond de sa personne et va bouleverser sa vie bien rangée. Alors un peu comme les Hells Bells d'ACDC, ce bruit de cloche va débouler sur lui comme un ouragan. Autant le dire, s'il en est besoin, ce court-métrage ne s'adresse pas à tout le monde, à une époque où l'horreur est devenue au choix totalement insipide à force d'être surautorisée ou fatigante à cacher sa vacuité formelle et symbolique derrière des montagnes de gore faussement décomplexées. Et ça fait un bien fou de voir Kurosawa presque nous réapprendre l'aspect vénéneux, insidieux du mal et de l'effroi qui sort d'un univers on ne peut plus banal, et tout cela sans se soucier de répondre ouvertement aux questions qu'il pose inévitablement, cassant les règles traditionnelles de la narration. Alors, avis aux indécrottables cartésiens, il ne faut pas chercher à le décoder ni à l'analyser, car comme le mal à l'état pur, il déstabilise, isole et frappe là où ça fait peur. Car oui, Scheim fait peur. Les amateurs du cinéaste trouveront le fameux Kurosawa qui a su s'exporter et se révéler à l'Occident au tout début des années 2000, car il n'est pas sans s'attacher à soulever une thématique déjà présente dans Cure et Cairo, à savoir le virus de la violence qui infecte ceux qui traversent des moments difficiles ou sont en difficulté, qui prend possession de leur corps et qui amène à un nihilisme aussi radical que total. Alors au fil du film, on sent que le virus de la violence se propage de plus en plus, enfermant des victimes dans un étau d'autant plus sordide qu'ils finiront invariablement eux-mêmes par y succomber et sombrer dans le néant sans pouvoir le contrer. Alors mine de rien, c'est une thématique qui n'a pas vieilli, mais qui a peut-être malheureusement pris une importance plus forte aujourd'hui, plutôt qu'à l'heure de Cure et Cairo, quand on voit l'état du monde et la lente désagrégation de nos grandes villes modernes. Scheim ne modernise pas donc forcément cette idée, il l'expose de manière terrifiante car totalement implacable, sans détour, et tout en ambiance aussi mortifère que ses décors intérieurs et extérieurs semblent déshumanisés. Le carillon tisse invariablement sa toile vers une conclusion implacable, jusqu'à un ultime plan glaçant. Un beau retour au genre de la part de Kurosawa, et le tout pour à peine 45 minutes.
Manu, tu l'as vu ce film ?
Oui, je l'ai vu et je reste assez impressionné. Alors déjà pour le travail plastique, sur le son, sur le décor, sur les cadrages. Et puis pour un film qui n'est pas explicite, la durée 45 minutes me convient très bien finalement.
Oui, complètement.
Et les thèmes sont quand même assez limpides, puisqu'on retrouve, comme tu l'expliquais, hein, cette propagation du mal, mais aussi les rapports sociaux qui sont extrêmement tendus au Japon, entre on voit là, le maître et les élèves, les employeurs-employés, la cellule familiale aussi, il y a quelque chose de très anxiogène quand ils filment une famille. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un grand petit film, et Kurosawa, c'est un peu, je dirais, la synthèse entre la modestie de grands artisans de films d'épouvante comme Val Lewton, et puis avec ce côté un peu engagé, côté politique qui est très fort, comme des grands auteurs comme Mizoguchi ou Oshima. Et vraiment, c'est un peu un mix des deux, Kurosawa, et c'est pour cette raison que c'est un cinéaste que je trouve très très précieux.
Ouais, si Jack Tourneur faisait Battle Royale, hein, quelque part.
Et donc Shime est en salle, c'est le premier film des deux donc, de Kiyoshi Kurosawa, et maintenant eh bien, un autre titre bien, en russie cinglant, c'est Cloud.
Oui, alors ça a l'air simple, hein, mais on va voir que c'est complètement différent. Alors à peine a-t-on le temps justement de reprendre ses esprits que Kurosawa il enchaîne avec ce film à l'ambiance tout aussi étouffante. Il s'appelle Cloud. Oui, même si le titre se traduit par nuage, il n'y a rien d'angélique derrière cette sombre histoire inspirée par des faits réels ayant marqué le réalisateur. Alors au Japon, plusieurs internautes ne se connaissant que par écran interposé ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur idée extrême et ont assassiné un inconnu. Alors choqué par la nature profondément absurde de la violence de cet acte, Kurosawa a vu dans ce fait divers assez déshumanisé l'illustration d'un monde où la violence peut surgir sans logique apparente, simplement parce qu'un groupe d'individus isolés qui sont montés la tête se retrouve dans un espace numérique, laisse monter une haine amplifiée par la solitude et la virtualité des sentiments que crée cette situation, et qui ne trouvent comme moyen d'expiation de leur frustration que le fait de franchir la dernière des limites morales. Je disais des faits réels, car Kurosawa a combiné l'histoire sordide, rapportée plutôt au profil de l'une de ses connaissances qui, comme le personnage principal de Cloud, vit de la revente en ligne. Alors je cite son portrait fait par Kurosawa. Il achète des produits, puis il les revend en ligne à des prix beaucoup plus élevés. Cette personne opère dans une zone grise où ce qu'elle fait est techniquement légal, mais frôle souvent la limite éthique. Elle est incroyablement consciencieuse, vérifie constamment son ordinateur, recherche les articles, les listes et les vend, tout en vivant dans l'environnement urbain exigeant qu'est Tokyo. Donc voilà, car c'est ça le point de départ de Cloud, cette pratique résolument moderne de la revente et de la spéculation sur Internet. Les achats en ligne ayant pris de plus en plus de place dans nos vies, il n'était pas étonnant de voir émerger une nouvelle forme de commerce plus rapide, plus radicale et d'autant plus révélatrice pour Kurosawa. Alors je le recite, pour moi ce métier symbolise le capitalisme. Si vous n'avez pas de talent exceptionnel ou de richesse, la revente est un moyen de naviguer dans le système, de survivre dans le Japon moderne. C'est intéressant parce que quand on y pense, cette opération à petite échelle reflète ce que les grandes entreprises font à plus grande échelle. Acheter à bas prix, revendre à prix élevé, mais avec une conscience moindre des lignes éthiques qui sont franchies. Cette occupation m'est apparue comme une métaphore puissante de notre époque. Donc voilà, mais ce qui semblerait être un petit business solitaire chez certains, sans doute va se transformer en cauchemar chez le réalisateur, car Ryosuke, notre héros, va vite découvrir que toute pratique commerciale a une facette plus dure, plus compétitive, et que lorsqu'il s'agit de gros sous, les rapaces sont souvent sans scrupules. La première moitié du film nous envoie sur les pistes d'un excellent thriller psychologique. Lorsque l'histoire se détourne de son environnement urbain pour faire évoluer son héros et sa compagne dans une grande villa à la campagne, on a l'impression de basculer dans un film d'horreur ou un home invasion avec un couple de citadins emménageant dans une villa isolée, bientôt attaquée par les autochtones vindicatifs, où le passé horrifique du réalisateur fait du coup des merveilles. Mais c'est pour mieux changer encore une fois de genre, bifurquant vers l'action dans un long climax autour d'un hangar. Donc la violence virtuelle se transforme en violence physique et les confrontations psychologiques en fusillade. Une première, une vraie grosse première pour Kurosawa. Mais tout cela lui sert car son habituelle étude clinique et froide sert à merveille ces portraits psychologiques de ces personnages qui changent la perspective sur tous les événements auxquels on assiste. Cloud, c'est vraiment une étude implacable du capitalisme fait homme et ce qui l'éveille d'effrayant en lui. Ben, moi, je pense que c'est en ça un vrai film d'horreur moderne.
Et donc, bah, ces deux films de Kiyoshi Kurosawa sont actuellement en salle.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, chacun un film.
Oui, moi ce sera Ballerina.
Et moi ça sera Crasse.
Et puis moi j'aurais vu Le Dernier Dragon en salle. À la semaine prochaine.